Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 24 février 1988.
Nous allons continuer de préciser les diverses qualités que nous pouvons découvrir en nous. La première, c'est la sagesse. La sagesse comme habitus acquis. Donc comme ce qui vient mettre au plus intime de notre intelligence une détermination, une noblesse et une orientation. La grandeur de la sagesse, c'est d'unir au plus intime de notre âme, de notre intelligence, disons. Mais la distinction entre l'intelligence et l'âme, elle existe, elle est réelle. Mais il ne faut pas séparer. Il ne faut pas imaginer, par exemple, quelque chose qui vient s'ajouter de l'extérieur. C'est l'esprit, notre âme spirituelle, qui, de fait, a cette capacité radicale de connaître, cette capacité radicale d'aimer. Et l'habitus de sagesse unit ces deux orientations en vue de cette ultime activité humaine qui est la contemplation. La contemplation relève de l'amour et de l'intelligence. Pas de contemplation sans amour. Pas de contemplation sans intelligence. La pure affectivité n'est pas la contemplation. Et l'intelligence, dans sa rigueur métaphysique, quand elle atteint, par exemple, l'acte, ce n'est pas encore la contemplation. C'est une intelligence portée par l'amour. Et parce qu'elle est portée par l'amour, elle peut découvrir quelque chose qu'elle ne pourrait pas par elle-même découvrir. Et c'est le propre de la contemplation. C'est ça qu'il faut essayer de saisir dans cet habitus de sagesse. Et ça nous permettra de mieux comprendre, du reste, comment la philosophie première, la métaphysique, dans toute sa phase d'analyse, est rigoureusement intellectuelle. Et lorsque elle fait cet effort ultime de découvrir l'existence de l'être premier, cet effort, elle ne peut le faire que grâce à l'amour. Et c'est à ce moment-là que naît la sagesse. La sagesse naît à l'intérieur d'une intelligence portée par l'amour. Alors c'est très délicat. Je peux parler d'une connaissance affective. Quand j'aime quelqu'un, je le connais en l'aimant. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de peine d'accepter la soi-disant objectivité scientifique de la psychologie du psychologue, lorsque je connais profondément quelqu'un. Parce que ma connaissance affective me permet de le connaître de l'intérieur. Dans l'objectivité psychologique, je ne le connais pas de l'intérieur. Je connais bien son intériorité, tout son psychisme, mais je ne le connais pas de l'intérieur. Tandis que l'ami, je le connais de l'intérieur, en l'aimant. Quand j'aime quelqu'un, je ne le connais plus uniquement d'une connaissance dite objective, universelle, que tout le monde peut atteindre. J'ai un privilège unique. C'est comme quand je connais mon âme. Quand je connais mon âme en l'aimant, j'ai un privilège unique. C'est ce qui permet, même si certains vous disent certaines choses sur vous, vous pouvez dire toujours en définitive, il ne me connaît pas très bien. Vous voyez, vous vous rattrapez par l'affectivité. Heureusement, du reste. Autrement, vous seriez écrasé. Il y a quelque chose en nous, un ressort très profond, ce ressort qui est notre appétit, notre volonté aimante, qui fait qu'il y a quelque chose en nous que nous sommes seuls à pouvoir connaître. On dira au terme, Dieu et nous, dans un jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, je sais qu'il y a quelque chose en moi que seul Dieu connaît et que je peux connaître. Que même mes meilleurs amis ne peuvent pas entièrement atteindre. Je leur permets de pénétrer là. Et ils sont au seuil. Ils sont au balcon, vous voyez, comme pour le théâtre. Ils sont très très proches. Ils ont une vision très très proche, les plus proches. Ils regardent les psychologues comme une vision un peu lointaine. Ne peuvent pas s'approcher. C'est très curieux ça. Mais comment l'amour permet à l'intelligence de s'approcher? L'amour permet à l'intelligence d'avoir une vision interne et plus seulement externe. Vous voyez, et c'est là où l'objectivité change de bord. Quand je connais un ami, je le connais en l'aimant et mon objectivité est plus forte que l'objectivité du psychologue. Parce que c'est une objectivité qui peut pénétrer dans une zone que je suis seul à connaître, que seul l'ami peut connaître, en l'aimant. On a tous fait cette expérience, vous voyez. Quand on aime quelqu'un, il y a quelque chose de lui qu'on connaît et que les autres, même les meilleurs psychologues, ne pourront pas. Ils soupçonneront. Et s'ils sont d'excellents psychologues, ils écouteront l'ami. Ils diront, j'aimerais bien ce que vous dites de lui parce que vous pouvez le saisir mieux que moi. Ils le diront. Et on pourra à ce moment-là leur montrer certaines choses qui est du domaine de se velouter d'une connaissance affective. La connaissance affective, c'est une connaissance très différente, puisque c'est par connaturalité. Et si c'est par connaturalité, c'est une connaissance qui se fait sur un mode beaucoup plus intuitif. Je ne peux pas analyser l'amour. L'amour est au-delà de toute analyse. C'est le propre de l'amour. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom. Certains me diront, les noms manquent à toute notre affectivité. Bon, il y a donc une connaissance affective qui est très importante à bien Regardez, nous le verrons en critique, quand nous essaierons de comprendre quelle est la vérité de la connaissance affective. Le critère de vérité d'une connaissance affective n'est pas le même que le critère de vérité d'une connaissance scientifique. Il faut tout le temps respecter ça comme le critère de vérité d'une connaissance artistique. N'est pas le même. Il y a toujours ces plans différents qui ne s'opposent pas, c'est pas du tout pour opposer dialectiquement, c'est pour au contraire montrer combien la connaissance en nous est chose profonde. Parce que notre connaissance s'allie. Elle peut faire une alliance avec l'amour. Quand il s'agit de la personne humaine. Bon, la personne humaine ne se révèle à travers l'amour. Comme votre âme ne se révèle à vous qu'à travers votre amour. Si vous ne vous aimez pas, ça peut arriver, quand vous êtes de mauvaise humeur. Vous dites, ah là, encore la vieille bête qui est toujours là. Cet imbécile de mauvais caractère qui est là. J'arrive pas à t'aimer, mon vieux. On peut très bien comprendre ça. Hein. Le vieil âne, que voulez-vous, qui ne bouge pas, qui se bloque. Ce bloc enfariné, hein, qui ne dit rien de très intéressant. On peut très bien, et ça existe, ça. Quand on ne s'aime pas, notre âme n'émerge pas. Notre âme spirituelle, et elle, c'est très curieux, elle a peur d'apparaître. Et connaissance de notre âme spirituelle ne peut se faire qu'à partir de l'amour. Et ne disons pas que c'est imaginaire. Hein. Non, non, c'est réel. L'amour me permet de m'approcher de la réalité que j'aime, de m'approcher de l'intérieur, au point de vue spirituel. Et faites la comparaison avec, si vous voulez, hein, Le myope, il faut lui mettre une paire de lunettes pour qu'il arrive à discerner certaines choses qu'il ne verrait pas autrement. Mais notre intelligence est très myope par nature, vous savez. Elle a une myopie connaturelle. Hein. Tabula rasa, dit Aristote. Comme myopie, ça vaut quelque chose. Hein. Tabula rasa, c'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas beaucoup de détermination, il y a quand même beaucoup de peine à arriver à émerger. C'est pour ça qu'on met du temps à naître à la philosophie. Il faut beaucoup plus que 6 mois. Au bout de 6 mois, il y a une petite voix qui bouge un tout petit peu. Il doit y avoir quelque chose. Je commence à comprendre qu'il y a quelque chose. Mais il faut du temps que notre intelligence s'éveille. Et qu'elle s'éveille vraiment à sa finalité propre. Parce qu'on nous a, vous voyez, on nous a abrutis pour passer des examens. On nous a tous abrutis, il faut passer des examens. Mais passer des examens, c'est extrinsèque à l'intelligence. Vous comprenez bien. Alors il faut à tout prix. La bête de somme doit arriver à sauter à telle hauteur, autrement elle restera de l'autre côté de la barrière. Alors, on tape dessus. On est matraqué. Notre intelligence aujourd'hui est matraquée. Comme vous voyez, dans les grandes écoles, les gens qui se préparent aux examens, ils sont matraqués. Ça devient bête pour passer un examen. Et il y a des plis qui restent avant que l'intelligence se détende. Vous voyez, pour naître à elle-même. C'est ce phénomène particulier, n'est-ce pas, et on a même presque l'impression qu'elle ne peut naître par elle-même que dans un climat religieux. Il faut cette détente religieuse de la prière pour que l'intelligence puisse redevenir elle-même. Pour que mon âme spirituelle recommence à respirer comme âme spirituelle. Petit à petit, vous comprendrez ça. On peut le comprendre assez vite, durant ça. Qu'il faut redécouvrir l'état net actif de l'intelligence. Une intelligence qui ne s'arrête pas au conditionnement. Une intelligence qui arrive à découvrir ce que c'est que la réalité et la vérité. Il faut aimer son âme spirituelle, donc notre personne dans ce qu'elle a de plus profond, pour connaître cette âme spirituelle. Bien, c'est, pour l'ami, c'est comme ça aussi. Il faut du temps avant de connaître une personne. Et c'est pas le coup de foudre qui fait connaître une personne. On est séduit. Ouais, très bien, la séduction. La séduction n'est pas une connaissance par connaturalité. C'est un flash. C'est pas connaturel. Subit, oh, j'ai rencontré quelqu'un. C'est cette personne que j'ai attendue toute ma vie. Oui, oui. Au bout d'un mois, demandez un petit peu si c'est bien celle-là. Et vous voyez que ce n'est pas celle-là. C'était séduit. C'est encore un autre type de connaissance. La séduction n'est pas une connaissance affective. C'est une connaissance artistique, la séduction. On est séduit. Quelquefois, ça tombe très bien. Jacob est séduit par Rachel. Et c'était bien. Ça lui a coûté beaucoup. C'était très dur. Parce que c'est pas commode quand on est séduit par quelqu'un. Pour dépasser la séduction et arriver à une connaissance par connaturalité. L'amour d'amitié ne dure que quand il y a une connaissance par connaturalité. C'est la connaissance qui donne la stabilité à l'amitié. Alors là, toute la question de savoir s'il y a un habitus dans l'ordre de l'amitié. C'est une très belle question. Comment y a-t-il une qualité particulière qui fait que l'ami est l'ami? Je ne le traite pas ici. Hein. On traitera ça quand on regardera ce que c'est que la personne. Est-ce que l'ami est un type de personne particulier? Et c'est la connaissance qui donne cette stabilité. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a aucune stabilité. Le flux, vous savez, le mouvement de la mer, hein, le flux et le reflux, le double mouvement de l'affectivité. L'affectivité est tout le temps comme ça. Pourquoi un ami me fait une tête de mule aujourd'hui? Puis le lendemain, au contraire, c'est extraordinaire. Vous voyez, l'affectivité est toujours en mouvement. Tout le temps. C'est un souffle. Alors c'est un souffle qui est un raz-de-marée de temps en temps, qui ramène des tas de choses anciennes. Tu m'as dit ça il y a 3 mois, complètement oublié, complètement. Quand tu m'as quitté, tu m'as dit que, je sais pas, que tu étais pris. Tu as regardé ta montre juste au mauvais moment, c'est effrayant, alors que tu devais me regarder. Oui, ça c'est l'affectivité, on connaît tous ça, oui, c'est... Quelqu'un est terriblement sensible à ça. Simplement, il vous avait regardé votre montre parce qu'il y avait le train à prendre. Parce que vous aviez un autre rendez-vous. Et alors, lui, regardez la montre. On interprète, regardez une montre, hein, c'est interprète. Moi, je regarde la montre pour voir si c'est la fin du cours. C'est pas parce que je vous aime pas, mais c'est parce que c'est la fin du cours. Parce que vous voyez, ah, il regarde sa montre, ça prouve qu'il n'aime pas son cours. Que ça se termine. On regarde la mode parce que pour ponctuer, il y a des rendez-vous, on est bien obligé. C'est l'intelligence, regarder sa montre. Mais pour l'interpréter de multiples façons. Dans un dialogue amical, regarder sa montre, c'est effrayant. Pour l'ami, quand il ne vit qu'au niveau affectif. S'il vit avec un peu plus d'esprit, si votre ami est un peu plus spirituel, ça lui sera totalement égal. Parce que c'est pas regarder la montre qui est intéressant chez l'ami. Parce que lui-même aussi regarde de temps en temps sa montre. Vous voyez, l'affectivité pure nous met en prison. Alors que, de fait, l'intelligence dans l'affectivité rend lucide l'affectivité et lui donne une stabilité. C'est très important pour notre auto-éducation d'amour. C'est capital, ça. Et voyez comment l'intelligence vous permet d'aimer plus. Et comment la philosophie, puisqu'on se pose la question pourquoi faire de la philosophie, comment la philosophie vous permet de devenir plus intelligent? Quitter le domaine de la raison logique pour être intelligent. Et donc pour mettre votre intelligence au service de votre amour. Eh bien, quand il s'agit de la sagesse, il ne s'agit pas d'une connaissance affective. Il s'agit d'un amour qui pénètre mon intelligence pour que mon intelligence puisse s'approcher le plus possible de ce qui se révèle à moi. Et je ne peux pas dire que ma connaissance sapientiale est une connaissance affective, au niveau philosophique. Je le dirais pour la sagesse mystique, surnaturelle. La sagesse mystique, surnaturelle, est une connaissance affective, mais pas ma sagesse philosophique. Là, il y a quelque chose de très important à bien comprendre, vous voyez? La sagesse mystique, c'est un don du Saint-Esprit. C'est un habitus aussi. Et un habitus, don du Saint-Esprit, qui s'appelle sagesse. Et là, vous êtes en présence d'une connaissance affective par rapport au Christ. C'est votre cœur qui s'identifie au cœur du Christ. Et c'est votre cœur qui connaît le cœur de Jésus. De l'intérieur. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus supporter aucune image qui devient insupportable parce que vous aimez de l'intérieur. Et l'image, ce sera regarder sa montre. Et vous voulez uniquement aimer de l'intérieur. C'est ça la grande intériorité du don de sagesse. Et ça, c'est par une connaissance affective et aimante, divine, dans la charité, dans l'agapé. Tandis que la sagesse acquise philosophique reste substantiellement l'intelligence, mais l'amour de la vérité, pousse mon intelligence à aller jusqu'au bout. Pour qu'elle puisse être parfaitement elle-même. C'est pour ça que je crois que dans toute découverte de l'existence de Dieu, dans toute découverte de l'existence de l'être premier, il y a toujours la coopération de l'expérience externe et de l'expérience interne. Et là, ce serait peut-être quelque chose de très important à réfléchir. Dans cette dernière montée, cette découverte de l'existence première. Parce que toute la philosophie tend vers ça. La philosophie première tend à devenir une sagesse. Et la sagesse acquise, celle que nous regardons maintenant, cet habitus acquis, que nous devons tous chercher à acquérir. Si on fait de la philosophie, c'est pour ça. C'est pour acquérir la sagesse. Et c'est important. Parce qu'il n'y a qu'au moment où on acquiert la sagesse que notre philosophie peut être pleinement l'outil adéquat à la théologie. Tant qu'on n'a pas atteint la sagesse, la philosophie est un outil inadéquat. Tandis que par la sagesse, la philosophie devient un outil adéquat. C'est très grand, ça, du reste. Alors, il faut comprendre que toutes mes analyses philosophiques, toutes, tendent intrinsèquement à cette acquisition de cet habitus de sagesse. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, comprenez bien, c'est à ce moment-là où mon intelligence est parfaitement elle-même. Mon intelligence est faite pour la sagesse. Et tant que je n'ai pas acquis cette sagesse, mon intelligence est dans un état embryonnaire. Elle n'est pas encore née. Mon intelligence est pleinement elle-même quand elle acquiert cette sagesse. Et elle l'acquiert par elle-même. Évidemment, Dieu nous soutient, Dieu nous aide. Mais Dieu veut que ce soit nous-mêmes qui l'acquérons. Et ça, c'est toute la grandeur de la philosophie. Parce que vous faites des mathématiques toute votre vie, vous n'acquérirez jamais la sagesse. Vous faites de la psychologie toute votre vie, vous n'acquérirez jamais la sagesse. Vous faites de l'art toute votre vie, vous n'acquérirez jamais la sagesse. Seule la philosophie me permet d'acquérir la sagesse. Vous voyez, c'est ça qu'on devrait mettre à la porte d'entrée. L'école Saint-Jean, ici on acquiert la sagesse. Un peu prétentieux, hein, mais pour nous on peut le dire. Ici on acquiert la sagesse. Ce lieu est fait pour acquérir la sagesse. C'est pour acquérir la sagesse. Ça n'a pas d'autre utilité que celle-là. Acquérir la sagesse, c'est-à-dire être intelligent. Être intelligent pour Dieu. Et pour le prochain. Et pour nous-mêmes. Être intelligent pour soi, vous savez, c'est quand même très utile. C'est-à-dire avoir cette lucidité sur ce que Dieu a voulu que nous soyons. Alors ça enlève tous les complexes. Tous les complexes dégringolent. C'est le feu de joie de tous les complexes. On les brûle. Dès qu'on a compris ce que Dieu attendait de nous, ce que nous sommes en face de Dieu, ce que nous devons être en face de nos frères. Vous voyez, ça ne s'allume pas tout le temps ce feu de la sagesse, par moment. Par moment, il y a quelque chose qui nous permet de mieux voir. Ce n'est pas une intuition, c'est une connaissance sapientiale contemplative. La contemplation n'est pas une intuition. La contemplation, c'est beaucoup plus profond. C'est cette connaissance. Je dis bien de l'intérieur. Ce n'est pas une séduction. La séduction peut être très bonne. Soyez séduit par Dieu, c'est bien. C'est bon. Il faut aller plus loin. Il faut contempler Dieu. Et le contempler philosophiquement, dans cette par cette sagesse acquise. Donc il y a dans la sagesse cette alliance fondamentale de l'amour et de l'intelligence. Il n'y a plus aucune rivalité entre les deux. Il y a une coopération. Mais dans cette coopération, l'intelligence passe devant. Tandis que dans la coopération de la connaissance affective de l'ami, l'amour passe devant. Vous voyez les deux aspects très différents. Et je crois que ça, il faut le maintenir. On a toujours un petit peu une tentation de faire passer devant l'amour dans cette connaissance sapientiale. Dans l'adoration, vous faites passer devant l'amour. Et dans la contemplation, l'intelligence reprend sa priorité. C'est pour ça que c'est très très lié. Parce que je crois que sur terre, il n'y a pas de contemplation de Dieu sans adoration. La sagesse acquise me fait adorer. Et la sagesse acquise me fait contempler. Et elle me fait comprendre que l'adoration, c'est la petite porte étroite. Il faut d'abord s'humilier avant de contempler. Mais s'humilier divinement. S'humilier dans notre affectivité, en adorant. Dans une adoration qui implique l'holocauste intérieur de notre intelligence. Tant qu'il n'y a pas eu cet holocauste intérieur de l'intelligence, nous restons orgueilleux. Et l'orgueilleux ne contemple pas. Il y a un orgueil natif de notre intelligence. Hein. Nous savons, nous, en tant que chrétiens, puisqu'il y a les concupiscences, il y a une concupiscence d'orgueil. Pourquoi il y en a tellement peu qui pénètrent dans cette sagesse? À cause de l'orgueil. Pourquoi il y en a tellement peu qui pénètrent dans la philosophie, dans la métaphysique et dans la théologie naturelle? À cause de l'orgueil. Oh, ce ne sera pas explicite, mais c'est l'orgueil qui maintient en nous une domination. Vous dominez par le raisonnement. Et c'est très difficile de dépasser le raisonnement pour accepter d'être mendiant. Et la contemplation me fait mendiant. Et l'intelligence sapientiale, par l'amour, me fait mendiant. Je sais que c'est l'existence du Créateur que je veux contempler. C'est le Créateur que je veux contempler. Et contempler le Créateur ne peut se faire qu'en étant relatif à lui. Et en acceptant cette vérité d'être totalement dépendant de lui, jusque dans mon intelligence. Vous voyez, c'est très important de comprendre cette qualité suprême. Cette qualité suprême qui est l'habitus de sagesse. Alors peut-être un dernier petite remarque par rapport à cette qualité suprême. Quand Aristote dit que la qualité, c'est la diaphora, la différence de la substance. Est-ce que cette définition de la qualité n'est pas uniquement vraie de la sagesse? Est-ce qu'en définitive, la sagesse, ce n'est pas cette qualité suprême qui rejoint ce qu'il y a de plus substantiel en moi, non pas du tout par un retour sur moi-même, mais par la découverte de celui qui est la source même de ma substance. À ce moment-là, la qualité rejoint la substance en la dépassant. À ce moment-là, par la contemplation, donc le fruit de cette qualité, je rejoins ce qu'il y a de plus substantiel en moi en contemplant la source de ma propre substance. Et je comprends que là, la qualité peut avoir un lien très particulier avec ce qu'il y a de plus substantiel en moi. C'est très curieux, cela. Et ça, c'est très propre à la sagesse. C'est très propre à la sagesse. La sagesse, et ça va être tout le grand problème de la contemplation acquise, c'est que la contemplation s'exerce par moment, donc elle n'est pas substantielle dans son exister. Elle est accidentelle dans son exister, et elle est radicalement substantielle dans son orientation profonde, puisqu'elle touche la source de ma substance. Donc il y a quelque chose de substantiel dans cette habitude de sagesse. Quelque chose de radical. Quand je dis substantiel, vous voyez bien, quelque chose de fondamental et de radical, qui va plus loin que ma propre substance. On pourrait mettre dans la lumière de cette sagesse, on pourrait mettre tous les autres habitus, toutes les autres qualités de l'intelligence. C'est-à-dire, si tu es immédiatement après l'habitus de sagesse, l'habitus des premiers principes. L'habitus des sciences mathématiques et tous les habitus, même avant les mathématiques, mettaient les habitus d'informatique mathématique, puis les sciences. Puisque la philosophie n'a qu'un seul habitus, la sagesse. Vous ne pouvez pas avoir un habitus particulier de la métaphysique. Vous ne pouvez pas avoir un habitus particulier de la philosophie de la nature. Vous ne pouvez pas avoir un habitus particulier de l'éthique. Oui. Ça aussi, c'est une question très importante et intéressante. Oui. Si tu es ça de cette manière-là, que vous ayez un petit schéma organique. La sagesse, l'habitus de sagesse. L'habitus de sagesse est organique, il est ultime et organique. Alors qu'est-ce qu'il va impliquer? Il va impliquer l'habitus des premiers principes. Ça, c'est sûr. Mon intelligence saisit des principes. Et les principes propres. Il y a un habitus. Et qui est impliqué dans l'habitus de sagesse. Et dans cet habitus de sagesse est impliqué quoi? L'éthique. C'est dans notre pratique. Est impliqué l'art, la philosophie de l'art, oui, la philosophie éthique, la philosophie de l'art, la philosophie du vivant, la philosophie de la matière. Alors, on pourrait se poser la question, y a-t-il là des habitus différents? Puis-je acquérir un habitus philosophique de l'éthique, séparé de la sagesse? Puis-je devenir un spécialiste de la philosophie éthique? En disant, ah non, moi, la sagesse, non. La sagesse, ça regarde trop la philosophie première, la métaphysique. Je ne suis pas un métaphysicien, moi je vais me contenter de l'éthique. Ou bien je vais me contenter de la philosophie de l'art, je suis un artiste. Ou bien je vais me contenter de la philosophie du vivant, ça m'intéresse. La philosophie de la matière. Puis-je séparer l'habitus de sagesse de toutes ces parties organiques de la philosophie? Question très délicate et importante. C'est-à-dire, est-ce que je peux me spécialiser en éthique? Ou est-ce que la philosophie, par définition, refuse toute spécialisation? La philosophie, c'est la philosophie de l'homme. Si c'est la philosophie de l'homme, c'est la philosophie de la personne humaine. Si c'est la philosophie de la personne humaine, c'est la philosophie du sage. Et donc toutes les parties de la philosophie sont intégrées dans l'habitus de sagesse. Et tant que je n'atteins pas cet habitus de sagesse, toutes les autres parties de la philosophie demeurent de l'ordre de la disposition. Je peux être plus disposé, c'est le mot. Je peux être plus disposé à l'éthique qu'à la métaphysique. Il y a des intelligences qui sont plus en connaturalité avec l'éthique qu'avec la métaphysique. C'est vrai. Il y a des intelligences qui sont plus disposées à la philosophie de l'art Quelle éthique? Il y a des intelligences qui sont plus disposées à la philosophie du vivant qu'à la métaphysique. Et l'inverse. Alors je dis, il y a des dispositions, c'est vrai. Mais l'habitus est unique en philosophie. Il y a un habitus de sagesse. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un habitus métaphysique. Il y a un habitus de sagesse. Il y a un habitus de sagesse qui implique la métaphysique, qui implique l'éthique, qui implique. C'est organique, la philosophie. Il y a des dispositions différentes, vous voyez? Il y a des voies d'accès différentes. On pourra dire, pour moi, j'ai une plus grande facilité d'atteindre cet habitus de sagesse par l'éthique que par la philosophie première. Je peux plus facilement atteindre cet habitus de sagesse par l'art que par la métaphysique ou l'éthique. Et ainsi de suite. Ce sont des voies d'accès qu'il faut découvrir du reste, hein. On les découvre progressivement. Donc il y a une voie d'accès, deux voies d'accès, trois voies d'accès, quatre, cinq voies d'accès. Vous avez cinq voies d'accès, cinq grandes orientations pour acquérir la sagesse. Vous voyez, prenez l'image heideggerienne pour bien comprendre ça. L'image heideggerienne, c'est Lichtung. C'est le jeu de mots là-dessus. Il y a des carrières dans une forêt qui aboutissent tous à un centre, hein, dans une belle forêt, la forêt de Compiègne. Alors ici, c'est la sagesse, l'habitude de sagesse. Alors vous avez la voie d'accès philosophie première. C'est la voie la plus royale. C'est réservé. C'est la voie la plus royale, par l'habitude, par la philosophie première. Mais tant que je reste dans la philosophie première, je n'ai pas l'habitus de sagesse. Je ne suis pas pleinement philosophe. Puis il y a l'autre voie, l'éthique. Puis il y a l'autre voie, philosophie éthique, hein, philosophie de l'art. Puis philosophie de la matière. Philosophie du vivant. Oui, ce sont des dispositions, des carrières, ça me conduit à cela. Tout me conduit à cette habitude de sagesse. Ça, il faut le comprendre. Et c'est merveilleux, et c'est là que vous comprenez ce que c'est que la qualité. La qualité, c'est cette habitude de sagesse. Ce qui ennoblit radicalement mon intelligence et qui met mon intelligence en contact avec ce qui est ma fin, ce qui finalise toute ma vie, ce qui me permet de contempler. Vous voyez la noblesse de la philosophie. Alors évidemment, quand vous êtes là, vous comprenez, quand vous êtes là, par exemple, hein, en éthique, vous ne voyez pas très bien, parce qu'il y a beaucoup de végétation qui a poussé. Alors le terme, ça ne se voit pas beaucoup. C'est un peu rasoir, cette philosophie. Surtout celle-là, philosophie de la matière, ce que c'est effrayant. Et puis celle-là aussi. Celle-là, ça va encore. Philosophie de l'art, ça va à peu près. J'ai des dispositions. La métaphysique, oh, c'est extraordinaire, mais j'y comprends rien, mais c'est extraordinaire. Et ben, je ne vois pas encore très bien, mais c'est sûr que la philosophie première a une espèce d'orientation vers la sagesse qui est très étonnante. Mais c'est la sagesse qui est. Une fois qu'on a acquis la sagesse, tout s'éclaire. Et tout s'organise. Alors, il faut chercher à l'acquérir. Puisque tout s'éclaire et tout s'organise, une fois qu'on a acquis la sagesse.